Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Michel au 39-21. Bonsoir Michel.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Michel et quel âge avez-vous ?
Je vous appelle de la Drôme et j'ai 72 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Michel ? Dites-moi.
Alors je voudrais vous parler de... Je prends la suite de Julie que vous avez... vous avez fait part de son histoire.
Oui.
De l'alcoolisme fœtal, oui, pas du syndrome, oui, d'alcoolisme fœtal.
Oui.
Et donc, je prends la suite parce que j'ai eu la même aventure. Enfin, c'est une autre forme. J'ai vécu des choses moins difficiles dans certains domaines, mais équivalentes dans d'autres. Donc, alors, c'est l'histoire d'un enfant que nous avons adopté en Pologne. En 1988.
Oui.
Et que j'ai eu dans les bras 3 jours. Donc tout s'est très bien passé. Il y a eu un jugement, il n'y a pas eu de choses glauques, tout était clair.
Oui.
Il est revenu en France, donc on l'a repris à 4 mois. Et. Bon, en Pologne, il fallait rester un mois après le jugement. Il fallait rester un mois dans le pays. Donc, on est rentré en France. Il avait 5 mois. Tout se passait bien. Le médecin écrivait « enfant magnifique ». Enfin, bon, il était très beau, éveillé. Tout était merveilleux. Et puis, vers l'âge de 2-3 ans, j'avais observé des petites choses un petit peu bizarres dans son comportement, mais... Bon, c'était amusant, ça nous faisait rire, on se disait c'est un enfant, on va pas. Et je vais synthétiser parce que c'est très long. Jusqu'à l'âge de jusqu'au CE1, tout s'est passé scolairement bien. Et à partir du CE2, ça a commencé à aller moins bien, jusqu'au jour où on nous a demandé de faire quelque chose parce que la directrice nous avait écrit « Nous n'en pouvons plus, nous ne savons plus que faire. » Donc, j'ai demandé des tests. On m'a dit que c'était un enfant précoce. Alors, j'étais orthophoniste jusqu'à il y a 2 ans.
Oui.
Et j'avais observé des difficultés, des choses, beaucoup d'aptitudes, une rapidité d'esprit pour certaines choses, mais quand même des difficultés. Je vois le psychologue qui me dit « Mais non, c'est votre imagination, vous êtes déformé par votre profession, c'est votre inconscient qui parle à son inconscient. » Il a commencé à délirer, j'ai dit « Bon, d'accord. » Et puis, il nous a dit « Il faut lui faire sauter une classe, c'est un enfant qui s'ennuie. » Moi, je ne voulais pas. Son père le voulait, donc il s'est retrouvé dans une école pour enfants précoces.
Oui.
Et alors là...
C'était la catastrophe.
Je ne sais pas le mot qu'il faut employer. L'enfer. Pour moi, l'enfer, je suis tranquille, il n'est pas là-haut, il est sur Terre. Donc, ça a duré quelques mois. Au bout de quelques mois, il a fallu l'enlever de cette école pour enfants précoces. Donc, c'était en Ardèche, dans un collège privé. Ensuite, mon mari est parti s'installer à Nice, dans une école très connue qui s'occupe des enfants précoces, enfin,
oui,
dit surdoués, ce qui est une absurdité. Et là, ça a été deuxième calvaire. Ça a duré encore quelques mois. Il voulait suicider, il menaçait, enfin bon. Alors, mon mari, qui était en invalidité à l'époque, est parti dans l'Allier, dans un adorable collège privé, où on s'est mis à sa disposition, on s'est adapté, les enseignants ont été extraordinaires. Et ça n'a pas marché non plus. Donc un jour, mon mari habitait dans la maison de campagne de sa mère, qui était à côté de Vichy, et je reçois un coup de téléphone de mon mari qui me dit « j'en peux plus, je vais devenir fou ». Alors là, moi, je travaillais toujours dans la Drôme, donc on était loin. Alors je suis allée à côté de Vichy, et puis je l'ai fait hospitaliser à Lyon. À Lyon, on ne nous a rien dit. Mais à lui, on lui a dit, voilà, tu vas aller dans un collège, dans un endroit où tu vas apprendre, mais où tu feras du sport, où tu feras, enfin, tu travailleras, mais on s'adaptera à toi. Mais on ne parlait pas de difficultés, il n'y avait pas de difficultés. Bon, aux parents, on ne dit rien. Et c'est mon fils qui nous annonce un jour qu'il va aller dans une école et qu'il va faire du cheval, qu'il va faire très bien. Et là, moi, j'ai piqué ma première colère et je leur ai dit, bah, écoutez, s'il vous plaît, il faut me le dire. Hein, parce que visiblement, il ne voulait pas qu'il parte. Il voulait directement le faire l'amener de l'école. De l'hôpital, dans cette école, et on n'était pas prévenus. Hein. Il n'y avait aucune communication avec les parents.
Oui.
Donc, comme ça commençait, ils ont senti que ça allait mal se passer, ils l'ont fait sortir, il est revenu, donc il est rentré chez nous, il n'était plus question d'école, et bah, il y a eu un redoublement, forcément, 3 collèges en une année, c'est quand même pas mal. Le troisième collège a refusé le passage en cinquième, et pour cause. Donc, il n'a plus voulu aller en classe. C'était impossible. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que ça a été le CNED, sixième, cinquième, quatrième. Et c'est moi qui ai fait tous les cours du CNED, après mon travail, et le week-end, et les vacances. Donc, il est arrivé en quatrième. Enfin, c'est peut-être moi qui suis arrivée en quatrième. Et là, il y a eu une histoire de fou. Le jour de son anniversaire, de ses 15 ans, il voulait un portable. Il fallait lui acheter tout de suite. Et comme je lui ai dit non, tu attendras. Demain, on ira voir. Il m'a tapé, il m'a donné des coups. Mais d'une violence, il a tout jeté dans la maison. Et puis, il est parti. Il est revenu 10 minutes après en me disant, j'ai avalé une boîte de médicaments, de Xanax, et qui était à son père, qui était resté dans la pharmacie. Et à ce moment-là, j'ai appelé les pompiers, je l'ai fait hospitaliser. Il m'a dit non, j'en ai pris que 2. Et je lui ai dit, moi, je ne sais pas, tu me racontes ce que tu veux. Donc, les pompiers sont venus, hospitalisation, enfin, l'enfer. Je vous passe les détails. J'apprends par le psychiatre de l'hôpital qu'il a une copine et que la copine est enceinte. Il a 15 ans, qui va être papa. On me demande ce que je compte faire. Alors là, je me suis levée, j'ai claqué la porte et je suis partie. Ensuite, j'ai essayé de comprendre. Alors, il m'a dit oui, ce sont des jumelles. On leur a donné un prénom. Vous voyez, le délire, voilà. On rentre dans les mensonges, la mythomanie, qui est un des problèmes de ces enfants. Mais moi, je pensais que c'était, à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était vraiment une pathologie. Je me disais, c'est son caractère, c'est l'adolescence. Enfin, on mettait tout sur le compte de l'adolescence. Et puis, je vous passe les détails. Je comprends rapidement que tout ça, c'est une manipulation. Et que, parce qu'il a perdu son père 2 ans avant. Et il a perdu son père, il a perdu sa grand-mère 9 mois avant son père. Et son problème, c'était même pas le décès de son père, c'était l'héritage, parce qu'on avait divorcé quelques temps avant.
Oui.
Et voilà, son problème, c'était l'héritage. Et c'était avec la copine qui était soi-disant enceinte, il est allé raconter à toute la ville qu'il allait hériter, comme il y avait beaucoup d'argent, c'était pour lui, hein. Moi j'en avais rien à faire, mais je vais acheter une voiture, une maison, enfin le délire. Moi j'étais pas au courant, tout ça, j'ai su toutes ces choses-là, je les ai apprises après. Mais c'était une histoire montée entre les parents de la copine, qui avait quoi, 15 ans, 15 ans. C'est-à-dire que à partir du moment où il avait des enfants, bah, il devenait majeur. Étant majeur, il héritait. Je ne sais pas si vous...
Si, je vous suis.
Donc, j'ai écrit une lettre recommandée aux parents en leur disant, attendez, là, c'est votre histoire, c'est votre fille, elle n'est pas claire, mais lui non plus. mais vous devriez les faire soigner. J'ai demandé des preuves. J'ai dit, bah, écoutez, si votre fille est enceinte, bah, il assumera. Hein, c'est... Mais je lui ai dit, je pense que les deux ont besoin de... Bon, j'ai jamais eu de nouvelles du père, mais il a fini par, j'ai fini par comprendre que c'était un coup monté, mais avec les parents. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de l'envoyer chez moi là-bas, en Bretagne, à côté de Brest. Et comme c'était un fouteux et qui était doué en plus, il a trouvé tout de suite un club de foot. Et l'entraîneur était tellement gentil, puis il avait vu que c'était quelqu'un qui avait... Voilà, c'était ça qui était terrible, c'est qu'il avait du talent pour certaines choses, mais pas dans la durée. Et donc, il l'a accueilli chez sa mère. La mère de l'entraîneur l'a accueilli vraiment comme un petit-fils. Ils se sont mis en quatre, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Quelques semaines après, je reçois... du courrier, nous ne savons plus quoi faire. Il refuse de manger, il cache la nourriture sous le bar. Il ne va pas en cours, il fugue, il revient, il ment. Bon, je repars à Brest, je le fais descendre à Quimper. Et là, il va dans un collège. Alors, je plaide sa cause, un enfant adopté, il a perdu son père, il a perdu sa grand-mère. Moi, je crois que tout vient de là, que c'est une des raisons. Bon, ils sont sympas, ils l'acceptent. Et puis, quelques mois, peut-être deux mois après, je reçois un courrier en me disant bah, « on ne peut plus, ça, c'est insupportable. Il faut faire quelque chose parce qu'on n'en peut plus. » Ils se bagarrent, ils provoquent. Troisième collège, toujours à Quimper. Et là, bah, il finit sa troisième. Enfin, il a fini. Sa chance, c'est d'avoir, comme le CNED, c'était moi qui travaillais, j'allais dire pour lui, je l'impliquais, il fallait que ça passait toujours par des crises, mais quand même j'avais un petit peu d'exigence, pas beaucoup, mais j'avais compris que ça allait être très compliqué après. Donc de la sixième à la quatrième, c'est moi qui assurais son enseignement. Et donc, il avait suffisamment de points pour être reçu déjà au brevet en quatrième. Donc, la troisième, à la limite, avec zéro de moyenne, ce n'est pas grave. Donc, il a son brevet. Il part à Saint-Étienne en sport-études foot. Et alors là, c'est l'enfer dans l'enfer. La juge des tutelles lui accorde une chambre pour aller faire ses matchs de foot le dimanche. Et là, bah... Il mène sa vie. Je comprends que bah il ne fait rien en classe. J'ai des lettres et des lettres et des deux plaintes de l'école qui me disent que bah ça devient insupportable pour eux. Alors je vais un jour chez lui. Je prends le train et je vais à Saint-Étienne sans le prévenir. Et là je vois la vie qu'il mène et il devient fou d'avoir été pris sur le fait et il me donne des coups, mais alors en me disant... Mais
des horreurs.
J'étais des horreurs et en me disant, parce qu'il est 1m90, hein, et vous savez, musculation, bodybuilding.
Oui, c'est un beau bébé, quoi.
Un beau bébé. Et il me dit... Il a des fenêtres qui sont au ras du sol. Là, il est dans au dernier étage, sous les combles. Et il me dit, je vais te foutre par la fenêtre et ça va régler le problème. Et il me cogne tellement que je sais plus. Je me dis, il va me tuer. Et je pense qu'il aurait pu le faire. Et là, j'ai le réflexe d'appeler un médecin, un psychiatre que je connais.
Oui.
Et il se fait hospitaliser à Clermont-Ferrand. Alors à Clermont-Ferrand, bah, il drague, parce que c'est sa spécialité. Et tout. Alors comme il est, vous savez, il faut l'imaginer, c'est le grand blond, les grands yeux en amande, très beau garçon. Alors les filles elles tombent toutes les unes après les autres. Et on me dit, bon bah voilà, il va rentrer, il a compris, on lui a parlé. Et je le fais suivre. Alors, je prends un médecin, un psychiatre, mais extérieur à l'hôpital. et qui me propose, et c'est là où j'ai commencé à me poser des vraies questions, qui me propose d'aller faire un PET scan. Il me dit, j'ai un ami chercheur à Orsay et je voudrais qu'on lui fasse passer un PET scan, c'est-à-dire pour voir le fonctionnement de son cerveau. Et comme j'avais une formation dans l'orthophonie, j'avais choisi la neuropsychologie, j'ai commencé à me dire, ça y est, il suspecte quelque chose. Parce que j'y ai toujours pensé, mais bon, je ne suis pas médecin, je me suis dit, si les médecins ne disent rien, les psychiatres ne disent rien, moi je ne dis rien non plus. J'appelle Orsay, j'ai le chercheur en question qui me dit, je suis désolée, mais les mineurs, on ne peut pas faire de PET scan chez les mineurs. Je crois que maintenant on peut. Et donc, il rentre et il ne fait rien. Le temps passe. Il avait rencontré une fille à Saint-Étienne, complètement perchée, mythomane, qui m'avait demandé ma protection parce qu'elle avait été violée par 3 Turcs. Et elle m'avait dit, mon père est boucher, alors je ne pouvais pas lui en parler parce que sinon, il pouvait les tuer. Elle avait des parents absolument adorables. Donc une mythomane qui est venue à la maison un jour et puis ce qui s'est passé c'est que elle est venue en voiture, elle avait un an de plus que lui, elle avait sa voiture et il me dit, il était sur le pas de la porte, il me dit attends j'ai quelque chose à lui dire, elle était venue lui rendre visite et il me dit je vais lui dire quelque chose et il saute dans la voiture et puis il disparaît pendant 5 ans, il fugue.
Oh là.
Et pendant 5 ans, je sollicite l'APEV, l'Association des parents d'enfants victimes. Il a 17 ans et demi, donc il est sur Internet, avis de recherche. Et puis, après, il a 18 ans. Et puis, on le cherche. Et je finis compte tenu des éléments que j'ai, on finit par le retrouver. Je vous passe les 17 ans et demi à 18 ans. Il se marie avec la copine. Alors, il rentre en possession de son héritage. Il fait des choses invraisemblables. Il dépense. Je voulais lui acheter un appartement ou une maison. Je lui dis, je peux t'acheter ça. Tu seras tranquille. T'auras déjà à 18 ans, je lui dis, tu seras chez toi. Tu n'auras pas de dette, tu n'auras rien. Et il me dit, tu me caches les...
J'ai besoin de
B point de suspension. J'ai besoin de coucher avec les filles, si vous voulez, en langage plus soutenu. Tu me fais chier avec tes maisons. Donc, il disparaît, il part, enfin bon, plus de nouvelles. Il est marié. Et j'ai aucune nouvelle, hein. Je ne sais pas ce qui devient. Puis un jour, j'apprends que un an de prison avec sursis pour violence conjugale et obligation de soins. J'avertis la juge des tutelles, je supplie, j'écris au procureur de l'Ardèche, au procureur de la Drôme, au procureur de Saint-Étienne, de la Loire. Je les préviens, je leur explique son fonctionnement, je leur dis que c'est un malade, il y a des choses graves qui vont se passer. Aucune réponse, personne. Toutes les personnes que je sollicite m'ont complètement ignorée. C'était pas grave, c'était
fou,
moi.
Ça.
Je suis la mère qui a des prétentions, qui croit qu'elle a un fils ingénieur. J'ai entendu des choses, mais à devenir fou, hein. Franchement, je l'ai payé. C'est ma santé qui a pris, mais ce que j'ai vécu, c'est on ne peut pas l'imaginer. Et quand il a bien dilapidé l'argent qu'il a, ou quasiment, et je peux vous dire qu'il y en avait, miracle, je demande qu'on protège ses biens. Eh bien, on le met curatelle renforcée pour 5 ans. Oui, mais on le fait quand il n'y a plus rien. Donc, il n'a pas de travail, il n'a plus d'argent, il a fait des dettes un peu partout chez des commerçants à Saint-Étienne. Il a raconté, il s'est marié en grande pompe avec des sur son costume. Il paraît, ça, on me l'a raconté. Il avait mis un maillot de la SSE, enfin des trucs de dingue, quoi. Mais une fois qu'il est donc il a été soigné, il a eu des. Moi, j'ai vu une photo de lui sur Internet. Il est obèse. Je crois qu'il était passé de 85 à 120 kilos par les médicaments. Et à ce moment-là, il se retrouve avec rien. Il a divorcé, il a rien, et il rencontre une jeune fille qui est sage-femme, étudiante. Et là, il lui raconte sa vie de pauvre enfant malheureux que sa mère a volé. Alors, je suis folle.
Oui, c'est ça. Ouais, bon, d'accord.
Je suis un monstre. Je l'ai volé. Je vais faire de la prison parce que, bien sûr, il va porter plainte. Et puis, la tutelle aussi va porter plainte parce que je l'ai volé. Et donc, la jeune fille la présente à ses parents. Et les parents tombent sous charme. Pauvre enfant, pauvre petit, maltraité, mon pauvre garçon, mais viens chez nous, on va s'occuper de toi. Et j'allais dire, je peux le dire maintenant, il squatte chez les parents pendant, je ne sais plus, quelques années. Alors, il travaille, il fait de la sécurité dans une boîte de nuit.
Oui.
Et puis après, alors là, il ne se sent plus là. Et après, il est ADS, adjoint de sécurité. Et puis, c'est le grand amour, hein. Fiançailles, les parents, il va en Chine, il part faire un voyage voir le futur beau-frère ingénieur qui est en Chine. On leur offre pour les fiançailles, moi je n'y vais pas, bien sûr. Il va en Tunisie, il revient. Et j'avais dit à une amie, tu vas voir. Sa tutelle a été levée grâce à l'intervention aussi des parents de cette jeune fille. Et donc, au bout de 5 ans, il n'est plus sous tutelle, il est libre. Il se fiance, ils vont en Tunisie et je dis à une amie, tu vas voir combien de temps il va rester. Il rentre de Tunisie, 2 jours après, il disparaît.
Il disparaît.
Parce qu'il avait une autre copine. Il avait déjà préparé sa fuite. Et
c'est,
moi, il
c'est,
m'avait.
C'est,
dit.
C'est un rapide de chez Rapide, lui. Hein.
Et ça, c'est rien encore. Donc, il va chez une autre jeune fille. Mais attention, toujours des gens qui ont de l'argent, ils ne se trompent pas. Et là, il raconte ses histoires. Alors, ils ont un enfant, un petit garçon. Et c'est comme ça qu'il reprend contact avec moi. Il m'envoie. Il m'envoie un message, une photo, je ne sais pas. Et donc, je rencontre la jeune fille qui est absolument infecte, grossière à la limite, qui me parle comme un chien, parce que forcément, il est victime. Et je l'ai volé. Vous vous rendez compte l'image que... Bon, je...
Donc, vous êtes la méchante.
Moi, je suis un monstre. C'est plus que méchante. Et donc, je l'invite dans un grand restaurant à Montélimar pour ses, je ne sais plus quel âge, 20, je ne sais même plus quel âge il avait. Et c'est 23 ans, je crois. Oui, 23 ans. Et au cours du repas, et il s'absente quelques instants. Et je lui dis, quand je pense qu'il y a, c'est 23 ans, je crois, oui. J'étais en Pologne et je lui dis pour avoir un... Et j'avais un petit garçon de 3 jours dans les bras. Et elle me dit, ah bon ? Ben, j'ai dit oui, pourquoi ? Elle me dit, mais il m'a dit qu'il était né d'une mère porteuse.
Oh.
Et on repart. Donc, l'histoire, il est né d'une mère porteuse. Son père est son père biologique. Et moi, j'ai compris pourquoi. Parce que son père était fils d'un très haut fonctionnaire militaire. Et donc, c'était mieux. Ça pouvait ça émerveiller beaucoup de gens. Que, voilà.
Il le savait. Vous lui aviez expliqué, en fait. On va stopper sur ce point-là. Si vous voulez bien, Michel, on va faire un point sur l'info. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes. Vous voulez bien ?
D'accord.
À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Trois heures passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous le savez, si vous nous rejoignez juste maintenant, vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous joindre par écrit au 739-21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, avec vos SMS bien évidemment, en n'oubliant pas de signer votre SMS. Nous sommes avec Michel, qui nous... raconte l'histoire de ce fils adoptif habité du syndrome d'alcoolisation fœtale. Et depuis 25 minutes, Michel, vous nous livrez un récit assez glaçant de la vie de ce garçon. Vous en étiez à évoquer ses dires sur ses origines, fils d'un très grand militaire. Ça, c'est de la mythomanie encore.
Non, mon beau-père était un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire militaire. Hein, c'est facile de comprendre. Quelqu'un qui est tout en haut de la hiérarchie. Et donc, il s'est servi de ça. Ça, c'était vrai.
D'accord.
Mais
je pensais qu'il parlait de son père polonais, en fait. Vous voyez il s'était créé dans son esprit une descendance en Pologne avec des hauts gradés dans l'armée. C'est pour ça que je n'avais pas saisi.
D'accord. Non, il disait que il était né d'une mère porteuse et il était né d'une mère porteuse.
D'accord.
Donc et il précisait que son père, donc mon mari, était son père biologique.
D'accord.
Mais il insistait surtout sur le fait que son grand-père, donc le mari de mon père, était un très haut fonctionnaire militaire. Hein, et ça, c'est vrai, c'était vrai, ça. Donc, vous voyez, il mélangeait...
Le père de votre mari, vous voulez dire ?
Oui, le père de mon mari.
Oui, d'accord. J'ai dit. Vous avez dit le mari de son père, donc c'est pour ça.
Oui. Vous voyez dans quel état...
Oui. Pour arriver au bout...
J'ai oublié de vous dire une chose quand même, c'est qu'en 2006, quand il a eu 18 ans, le 13 mai, j'avais j'ai dû faire un constat d'huissier. Il a saccagé la maison qu'on avait. Il l'a entièrement massacrée. C'est-à-dire qu'elle était inhabitable. Une maison qu'on avait achetée pour lui. Et la maison a été complètement saccagée. Il est venu avec sa copine, avec deux camionnettes. Ils ont déménagé. Il a volé la voiture qui était dans le garage. Il a fait remorquer et il conduisait une camionnette sans permis. Il a conduit pendant 5 ans sans permis de conduire.
Oui, donc c'est un enfant, en fait, il est en souffrance depuis un bon moment, mais on peut dire qu'il a un comportement psychotique, en fait, qu'il a un problème.
Alors, si vous voulez, il se... La deuxième copine vient me voir et me dit on va se marier, mais il faut que vous soyez là, je ne me marierai jamais sans vous. Bon, elle m'envoie elle vient me voir, elle se déplace pour venir me voir et elle me dit je ne peux pas vous dire, c'est important parce que Laurent, enfin voilà, oui, j'ai dit son prénom, hein, Laurent, il a une profession, c'est secret, c'est très très important, je ne peux rien vous dire. Et moi, je lui dis oui, c'est ça, les services secrets, et puis elle me dit je n'ai pas le droit de vous le dire. Et puis, bon, le temps passe, les parents adorables, des beaux parents en or, en platine, comprenant que moi, c'est bon, je suis guérie, préparent le mariage, font les choses, et puis fêtent le futur mariage, ils vont tous dans une boîte de nuit, mais très tranquille. Et là, la sœur de la future mariée dit à sa sœur, tu devrais faire attention à qui tu fréquentes. Et elle va le trouver, bon, je ne sais pas ce qu'elle lui dit. Et à ce moment-là, ben, révélation des mensonges. Il a fait croire aux parents qu'il était, écoutez bien, au GIGN.
Oui. C'est un vrai mythomane. Vrai mythomane.
La mythomanie et l'histoire de fou ne tient plus. Le père vient gentiment le trouver. Il l'insulte, espèce de gros plouc. Enfin, il le traite de tous les noms. Et à ce moment-là, bah, le père le met dehors. Donc, à nouveau, il se retrouve à la rue. Alors, plus de mariage, plus rien. Les parents, voilà. Mais il a une troisième copine. Il va squatter chez elle. Ils ont deux enfants. Et au mois c'était quand ? En 2017. Il me demande de venir pour le baptême de son fils. Bon, moi, je ne le voyais plus. J'ai dit peut-être que j'ai fait un effort. J'ai dit bon, on ne sait jamais, peut-être. Je n'y croyais pas, mais j'ai dit bon. Et là, ça a été fini. Il m'a fait un numéro. J'ai pris mes affaires. J'ai dit vous ne me reverrez plus. Et depuis 2017, je ne le revois plus. Mais il y a une chose que je voulais dire. Quand j'ai fait faire les tests où on me disait qu'il était enfant précoce, bon, moi je regardais la forme des tests, je disais il y a des problèmes. Et puis un jour j'appelle la salpêtrière, je connaissais une formidable neuropsychologue et je leur explique mon histoire. Je leur dis, je vous en supplie, il faut le tester parce que je vois des problèmes. On me dit que je rêve, ils finissent par accepter de le recevoir. Et là. Ça a été vraiment, je remercierai jamais assez Monique Plaza, qui est une fabuleuse neuropsychologue, qui est chercheure maintenant, qui l'a testé et qui a vu les difficultés, qui enfin a vu toutes ces difficultés que l'on retrouve dans le syndrome, dans les troubles du comportement dus à l'alcoolisme fœtal. Et elle lui a dit, tu sais, je suis désolée, mais je dois te dire que tu as beaucoup de capacités. Tu as des capacités dans certains domaines, oui. Mais tu as aussi des difficultés. Et c'est ta maman qui a raison. Et alors là, je ne vous dis pas, il n'a rien dit, mais ça a été terrible pour lui. Parce que ces difficultés ont été mises en évidence. Il a fallu que je trouve quelqu'un qui est chercheur, vraiment qui a cherché, c'est le cas de dire, et qui a parfaitement... établit son profil. Et dans ce profil, on voit les difficultés. Et ça, c'est terrible, parce que je ne sais pas comment les tests ont été faits avant, mais pour qu'on ne voit pas plus les problèmes de mémoire, les problèmes de difficulté à maintenir un effort intellectuel, enfin, tout ça a été... Alors, si vous rajoutez le comportement mythomane, menteur, violent, c'est... Alors, il avait fait faire un test de personnalité et on lui avait répondu séducteur opportuniste. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire.
Séducteur opportuniste, d'accord.
Oui, oui, oui. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis rentrée en contact avec des personnes qui s'occupent du syndrome d'alcoolisme fœtal. Et j'ai contacté un psychiatre il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Et je lui ai lu les tests de Monique Plaza et il m'a dit bah, c'est à 99,99%, c'est ça. Donc ça a duré 27 ans pour que le mot, que le nom soit posé, qu'un diagnostic soit quand même posé. Et ce qui est très grave, et ça je tiens à le dire, c'est que si je vous disais aujourd'hui, ce qu'il fait, vous ne me croiriez pas.
Que fait-il ?
Il est gardien de la paix.
Mais non.
Ah, mais je vous
jure. Il est gardien de la paix ?
Oui.
Et où ?
J'ai vu sur Internet qu'il avait été reçu en 2018. Il a passé deux fois. À Paris, en région parisienne, je pense. Parce que je crois qu'au début... Oui, c'est pour la région parisienne. Alors moi, tant pis, hein. Ceux qui l'ont...
Ceux qui tombent dessus, vous vous rendez compte ?
Ah ben ça, je crois que pendant une partie de ma vie, j'aurais tout fait pour que... Je ne sais pas. Moi, ça, quand on connaît sa violence, quand on connaît sa mythomanie, quand on sait ce qu'il est capable de faire,
c'est fou.
C'est ce qu'on appelle un psychopathe. C'est-à-dire que quand l'une, je voudrais remercier Luna Femme aussi, et qui a, quand Jean-Luc Delarue en 2006 a fait une émission sur les troubles bipolaires, j'ai été contactée. Alors j'ai été très étonnée parce qu'il paraît que mon cas était intéressant. Je sais pas si on peut dire intéressant. En tous les cas, c'était parlant parce qu'en fait, il a plein de petites pathologies. Enfin, il est un peu pervers, il est un peu borderline, il est un peu bipolaire, il est un peu tout. Ce qu'on appelle un psychopathe, malade de l'esprit.
Oui.
Alors, je ne sais pas comment sont faits les tests dans la police, je ne sais pas comment ils sont recrutés, mais moi, ça m'inquiète pour les gens qui vont... À moins que son cerveau se soit remis en place, mais enfin.
Mais non, mais c'est impossible qu'il se soit remis en place. C'est impossible. Donc c'est très très inquiétant ce que vous nous dites là, quand même.
Vous croyez que je suis pas inquiète ?
Oui. Non, mais en fait, c'est inquiétant aussi pour vous rendez compte les gens qui tombent sur lui en
oui,
bah vous je, voyez, les contrevenants. C'est quand même très, très grave.
Oui, bien sûr. Et puis, il a une arme aussi. Hein. Il est armé. Moi, quand on connaît, quand on sait ce qu'il a fait, si vous voulez, quand on a le vécu, parce que quand on parle, on dit deux mots comme ça, alcoolisme, syndrome, d'alcoolisme fœtal, c'est très bien. Mais quand on l'a vécu, moi, j'ai la mémoire du temps. J'ai 25 ans d'enfer. Et ce qu'il a fait, mais ça prend. En plus, j'ai les documents. Et quand je suis passée dans les... Alors, Jean-Luc, le commissaire qui s'était occupé de sa fugue m'a supplié d'accepter de passer dans l'émission de Jean-Luc Delarue en 2006. Et j'ai envoyé après le DVD de l'émission au procureur de Saint-Étienne qui l'a convoqué. Parce qu'il a roulé tout le monde, tous les procureurs, tout le monde s'est fait avoir. La tutelle, il a pris un avocat pour m'attaquer, j'ai dû en prendre un pour me défendre. Mais là, mon avocat, par contre, l'a neutralisé rapidement, parce que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de formidable. Mais c'est un enfer. Et vous pensez que les tests qui passent dans la police n'ont rien vu?
Oui. Alors, moi, c'est fou. C'est fou. Tout ce que vous nous racontez est terrible. En même temps, on sent votre souffrance et tout ce qu'il y a eu de gâché, tout ce qu'il a gâché dans votre relation à vous.
Pour moi, il n'existe plus.
C'est fini. Et votre inquiétude aujourd'hui, en fait, Michel, elle porte plus sur quoi pour conclure ?
Moi, je suis inquiète pour les autres.
Inquiète pour qui ? Pour les contrevenants ? Pour sa nouvelle compagne ?
Pour les gens, la compagne, elle est gentille, elle n'est pas. Vous savez, c'est quelqu'un, elle est sous son emprise. Et quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on ne voit pas. Et le problème, c'est que tout le monde, y compris les médecins, tout le monde a été sous son emprise parce que c'est un charmeur. Il sait vous regarder, il a une façon de se comporter qui fait que vous avez envie presque de le plaindre, le pauvre enfant. Mais si vous saviez de quoi il est capable, moi j'ai peur pour les autres. C'est pas pour moi, je m'en fiche. Moi, c'est si vous voulez, je ne lui souhaite pas de mal, je lui souhaite d'être heureux, mais pour moi, il y a vraiment une cassure. J'ai lutté pendant 27 ans, il y a 34 ans, oui. Pendant 27 ans, j'ai calculé à peu près. Je me suis inquiétée, j'ai cherché, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis, ça n'a servi à rien.
Oui.
Tout ça pour qu'il soit dans la police aujourd'hui. Et quand on sait ce qu'il est capable de faire, moi, je suis très inquiète. Alors, j'espère qu'il ne se passera rien. Mais comme m'a dit le psychiatre, ben, on n'a plus qu'à attendre.
Eh bien, attendons, et puis vous nous tiendrez au courant, bien évidemment, si les choses venaient à se gâter, hein, bien évidemment, on compte sur vous.
Oui, mais ça, ce sont les drames de l'alcoolisme.
On voit, oui, malheureusement, et puis ça n'est pas malheureusement terminé, il y a encore...
Il y en a beaucoup.
Oui, chaque mois, il y a beaucoup de naissances, il y a des dizaines et des dizaines de naissances qui sont abîmées par cet alcoolisme. Merci Michel pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. C'était, je vous ai beaucoup écouté parce que c'est passionnant et en même temps glaçant.
Oui, je sais.
Et ce qui me glace le plus, c'est de savoir qu'il a une arme, cet homme.
Et, je sais, mais moi aussi, c'est la seule chose à laquelle je pense quand même régulièrement. Mais le reste, ça m'est égal. Ouais, mais je suis inquiète pour les autres.
Merci beaucoup, Michel. Et puis,
c'est moi qui vous remercie.
On vous embrasse fort et n'hésitez
merci
pas à nous tenir
aussi
au courant s'il y avait le moindre incident, hein, surtout.
Je vous promets que j'y penserai.
Merci. Bonne nuit.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.